Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez Compte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je suis Léopoldine et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jour férié compris, en podcast sur le site de Radio Campus. Aujourd'hui, on part au pays du petit pois. Pas la peine d'être un pro du potager pour écouter cette histoire. Lâche donc cette pelle et ce râteau. Tu peux enlever tes bottes et tes gants de jardinage, car on ne va pas à Jardiland. On va écouter La princesse au petit pois, de Hans Christian Andersen. Juste avant, deux mots sur le conteur. Hans Christian Andersen naît au Danemark en 1805 et s'éteint dans le même pays 70 ans plus tard. Il est romancier, dramaturge, poète et l'auteur de 156 contes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. On le connaît notamment pour avoir écrit « La petite fille aux allumettes »,« La petite sirène », mais aussi « La reine des neiges ». Et oui, ce n'est pas lui qui a écrit les paroles de la chanson « Libérée, délivrée », alors ce n'est pas la peine de s'énerver. Ses nombreux voyages dans le monde lui inspirent une grande partie de son œuvre. Il est reconnu et célébré de son vivant. En 1835, il publie pour la première fois « La princesse au petit pois ». Allez, c'est parti. Il y avait une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une princesse véritable. Il fit donc le tour du monde pour en trouver une, et, à la vérité, les princesses ne manquaient pas. Mais il ne pouvait jamais s'assurer si c'était de véritables princesses. Toujours quelque chose en elle lui paraissait suspect. En conséquence, il revient bien affligé de n'avoir pas trouvé ce qu'il désirait. Un soir, il faisait un temps horrible. Les éclairs se croisaient, le tonnerre grondait, la pluie tombait à torrents, c'était épouvantable. Quelqu'un frappa à la porte du château et le vieux roi s'empressa d'ouvrir. C'était une princesse. Mais grand Dieu, comme la pluie et l'orage l'avaient arrangée. L'eau ruisselait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par le nez dans ses souliers et sortait par le talon. Néanmoins, elle se donna pour une véritable princesse. « C'est ce que nous saurons bientôt !» pensa la vieille reine. Puis, sans rien dire, elle entra dans la chambre à coucher, ôta toute la literie et mit un pois au fond du lit. Ensuite, elle prit 20 matelas qu'elle étendit sur le pois et encore 20 édredons qu'elle entassa par-dessus les matelas. C'était la couche destinée à la princesse. Le lendemain matin, on lui demanda comment elle avait passé la nuit. « Bien mal !» répondit-elle. « À peine si j'ai fermé les yeux de toute la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans le lit, c'était quelque chose de dur qui m'a rendu la peau toute violette. Quel supplice !» À cette réponse, on reconnut que c'était une véritable princesse puisqu'elle avait senti un pois à travers 20 matelas et 20 édredons. Quelle femme, sinon une princesse, pouvait avoir la peau aussi délicate ? Le prince, bien convaincu que c'était une véritable princesse, la prit pour femme. Et le pois fut placé dans le musée, où il doit se trouver encore, à moins qu'un amateur ne l'ait enlevé. Voilà une histoire aussi véritable que la princesse. Et maintenant une petite pause musicale avec Vanishing Twin, At Home in Strange Places, sur l'album The Age of Humanology. Thank you. Je voudrais revenir sur un point. Le conte se termine en disant « Le poids fut placé dans le musée où il doit se trouver encore, à moins qu'un amateur ne l'ait enlevé. » Si le poids y est encore, dans ce musée, nous sommes en droit de nous demander dans quel état. Donc, de deux choses l'une. Soit il a complètement pourri sur place et dans ce cas-là, Andersen nous donne une leçon de compost, soit il n'a pas bougé d'un poil, alors ce conte est une ode à Monsanto. Un peu avant l'heure, c'est vrai. Ce conte est surprenant. En moyenne, les contes d'Andersen font entre 3 et 10 pages. Ici, la princesse au petit pois fait une seule page. Dans les diverses propositions d'analyse de ce conte, on parle souvent du caractère du prince et de la princesse, ce que nous allons faire bien sûr, mais on oublie un peu trop souvent le petit pois, qui est quand même l'un des héros de cette histoire. Alors vous n'allez pas vous en tirer sans un petit point sur le petit pois. C'est un légume en provenance d'Asie centrale. Il est cultivé dans le bassin méditerranéen depuis l'Antiquité. C'est une bonne source de vitamine C et Louis XIV en était fan. Voilà, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas et en plus, grâce à moi, tu vas enfin pouvoir briller dans les soirées mondaines. Passons maintenant à une analyse du conte. Tout d'abord, une remarque d'ensemble sur l'apparence du conte. C'est vrai qu'il est déroutant. Il est court et la morale, puisque nous sommes habitués à trouver une morale à la fin du conte, n'a rien d'évident ici. D'ailleurs, il fait souvent l'objet d'un contresens. On réduit souvent ce conte à une analyse simpliste et sexiste, en disant que les femmes, les princesses de surcroît, ne sont identifiables qu'à leur tempérament de râleuse. Mais ne restons pas aux portes de ce conte et à son apparent sexisme. Deux mots sur la structure du conte. Tout d'abord, on a affaire à une quête irrésolue. La jeune fille qui débarque chez le prince est l'élément perturbateur et la mère, en mettant en place le test du petit pois, devient l'adjuvante de son fils. Et le problème du prince trouve alors une résolution positive car il rencontre celle qu'il cherchait. Tout ce conte, aux apparences déroutantes, est en réalité construit de manière très classique puisque tout d'abord nous avons une quête. Ensuite, nous avons un élément perturbateur. En troisième position, nous avons une adjuvante. Et enfin, pour terminer ce conte, nous avons une résolution positive de la quête initiale. Je voudrais aussi dire deux mots sur la situation du lecteur. Celui-ci se retrouve dans la même position que le prince et sa famille. C'est-à-dire qu'il n'a aucune information sur cette jeune fille et le narrateur ne vient pas répondre à ses questions. C'est-à-dire, qui est cette jeune fille? Pourquoi est-elle seule dehors par ce temps-là? Alors que souvent, dans les contes, on demande au lecteur d'adhérer d'emblée à un univers merveilleux. Rappelons par exemple l'introduction de Poussette, qui est un autre conte écrit par Andersen. Une femme désirait beaucoup avoir un petit enfant. Mais ne sachant comment y parvenir, elle alla trouver une vieille sorcière et lui dit « Je voudrais avoir un petit enfant, dis-moi ce qu'il faut faire pour cela ». « Ce n'est pas bien difficile, » répondit la sorcière. « Voici un grain d'orge qui n'est pas de la nature de celle qui croit dans les champs de paysans où tu manges les poules. Mets-le dans un pot de fleurs et tu verras. » « Merci, » dit la femme en donnant 12 sous à la sorcière. Puis elle rentra chez elle et planta le grain d'orge. Bientôt, elle vit sortir de la terre une grande belle fleur ressemblant à une tulipe, mais encore en bouton. « Quelle jolie fleur !» dit la femme en déposant un baiser sur ses feuilles rouges et jaunes. Et au même instant, la fleur s'ouvrit avec un grand bruit. On voyait maintenant que c'était une vraie tulipe. Mais dans l'intérieur, sur le fond vert, était assise une toute petite fille, fine et charmante, haute d'un pouce tout au plus. Aussi, on l'appela la petite Poussette. Ici, dans l'introduction de Poussette, cet autre conte d'Andersen, on voit bien que l'univers merveilleux est tout de suite posé, avec le personnage de la sorcière, la graine magique et la fille incroyablement petite qui sort de la fleur. Or, dans La princesse au petit pois, il n'est pas question de merveilleux. Nous sommes invités à entrer dans une histoire aux allures réalistes. La tempête, bien que violente, n'en est pas moins crédible et nous rappelle tous un orage d'été à Grenoble. C'est peut-être pour cela que nous sommes un peu pris au dépourvu par le test du petit pois qui fait sombrer tout d'un coup ce conte du côté de l'absurde. D'ailleurs, ça me fait penser cette histoire d'orage-là, chez Andersen. Ça apparaît dans un autre conte. Ça apparaît dans le conte de la petite sirène. Mais cette fois-ci, c'est l'homme qui est pris au dépourvu par la tempête et qui sera sauvé par la jeune fille. Cette fois-ci, l'orage mènera à l'amour, mais la non-réciprocité de celui-ci conduira la jeune fille à sa perte. Laissez-moi vous lire ce petit extrait de La Petite Sirène, un autre conte d'Andersen. Il se fit tard, mais la petite sirène ne pouvait détourner les yeux du bateau et du charmant prince. Les lumières multicolores furent éteintes, les fusées ne partaient plus, on n'entendait plus de coups de canon, mais il y avait un bruissement, un grondement au profond de la mer. Elle resta sur l'eau, ballottée par les vagues, afin de voir dans le salon. Mais le bateau prit de la vitesse, les voiles furent déployées l'une après l'autre, les vagues se firent plus fortes, de gros nuages s'amassèrent, il y eut des éclairs au loin. Oh ! Il allait y avoir un épouvantable orage. Aussi, les matelots cardèrent-ils les voiles. Le gros bateau roula et tangla à une vitesse folle sur la mer démontée. L'eau se souleva en grande montagne noire qui voulait déferler sur le mât, mais le bateau plongeait comme un cygne entre les hautes vagues pour se laisser de nouveau soulever sur l'amoncellement des eaux. La petite sirène trouvait que c'était une course amusante, mais ce n'était pas la vie des marins. Le bateau craquait avec fracas, les épais madriers ployaient sous la puissance des coups, la mer prenait d'assaut le bateau, le mât se brisa par le milieu comme un roseau et le bateau se coucha sur le flanc tandis que l'eau pénétrait dans la cale. La petite sirène vit alors qu'ils étaient en péril, elle-même dut prendre garde aux poutres et aux débris qui dérivaient sur l'eau. Un instant, il fit si noir qu'elle ne peut plus rien voir, mais dès qu'il y avait un éclair, il faisait si clair de nouveau qu'elle reconnaissait tout le monde sur le bateau. Chacun se démenait de son mieux, elle cherchait surtout le jeune prince, et elle le vit, quand le bateau se brisa, sombrer dans la mer profonde. Aussitôt, elle se réjouit très fort, car, maintenant, il descendait jusque chez elle. Mais elle se rappela alors que les hommes ne peuvent pas vivre dans l'eau, et qu'il ne pourrait arriver que le mort au château de son père. Mourir ? Non, il ne fallait pas qu'il meure. Aussi, nagea-t-elle parmi les poutres et les planches, dérivant sur la mer, oubliant totalement qu'elles auraient pu l'écraser, elle plongea profondément pour remonter très haut parmi les vagues et parvint enfin jusqu'au jeune prince qui ne pouvait presque plus nager dans la mer déchaînée. Ses bras et ses jambes commençaient à s'épuiser, ses beaux yeux se fermaient, il aurait dû mourir si la petite sirène n'était intervenue. Elle lui tint la tête au-dessus de l'eau et laissa les vagues les pousser, elle et lui, là où elle voulait. Je vous propose maintenant d'écouter Po avec le morceau Instanté sur le bel album Archipel.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous êtes toujours à l'écoute de Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Alors voilà, on retrouve encore une fois le motif de l'orage chez Andersen, mais cette fois-ci, il va jouer en la défaveur de la jeune fille. Revenons à la princesse au petit pois, et à notre fameuse petite princesse, justement. Au premier abord, on a l'impression que la jeune fille, qui vient frapper à la porte du château du prince, est une jeune fille de plus à sauver. On pense à tous ces contes remaniés par Disney, où il est question d'une Cendrillon à épouser pour la faire évoluer socialement, à la Belle au bois dormant qui sera réveillée et sauvée par le baiser d'un prince charmant, idem pour Blanche-Neige qui sera ressuscitée par le baiser d'un prince. Car notre princesse au petit pois semble bien fragile. Elle est en détresse et le roi, en lui ouvrant la porte de son château, vient la secourir. Nous sommes apparemment dans une situation classique. La femme est faible, on demande, l'homme est fort, répond à sa demande et joue un rôle protecteur. C'est un rapport d'infériorité et de supériorité, de sauveur et de sauvé. Le roi ouvre sa porte, la jeune fille est sauvée de l'orage. Ce rapport d'infériorité et de supériorité trouve un nouvel écho à la fin du conte quand, je cite, le prince, bien convaincu que c'était une véritable princesse, l'a pris pour femme. Il s'agit uniquement de la décision du prince et de son désir. Il a trouvé ce qu'il cherchait, donc il conclut l'affaire. Mais pas un mot ne nous est dit sur les désirs ou le consentement de la jeune fille. On se retrouve à une époque où les jeunes femmes ne choisissent pas leur époux, où celui-ci est imposé. Bon, d'accord. On n'attend pas l'accord de la jeune fille pour la marier, mais est-elle pour autant ce petit être fragile qui demande à être sauvé? La tempête, telle qu'elle est décrite, est d'une extrême violence. Il faisait un temps horrible, les éclairs se croisaient, le tonnerre grondait, la pluie tombait à torrents, c'était épouvantable. Et la princesse, elle se trouve en dessous. On ignore les raisons pour lesquelles elle se trouve dehors par ce temps-là, mais tout de même, il est rare qu'une princesse, puisqu'elle dit en être une, se retrouve dehors avec cette météo et toute seule. Elle est sans domestique, servante, sans ses parents. Même si on ignore le pourquoi, on ne peut que souligner l'étrangeté de la situation et peut-être même le courage qui l'accompagne. C'est là que vous allez me dire « Mais on est en pleine contradiction. Elle peut braver la tempête du siècle, mais ne supporte pas la présence d'un petit pois sous 20 matelas et 20 édredons, puisqu'elle dit qu'en dormant dans ce lit, elle a enduré un véritable supplice. » Oui, il faut bien admettre que le personnage de la princesse est, dans cette histoire, loin d'être aussi convenu qu'il n'y paraît. Car l'une des autres contradictions est son côté délicat. Apparemment, elle a la peau délicate, puisqu'elle arrive à sentir un petit pois malgré les 20 matelas et les 20 édredons. Mais elle, par contre, elle n'est pas vraiment délicate. Outre sa capacité à braver la tempête, elle râle dès le petit déjeuner. Elle est très franche et dit clairement et avec détail ce qui ne va pas. Elle parle de sa peau violette, comme ça on est sûr que le lecteur a bien le visuel de l'hématome en tête. La sensibilité de sa peau vient nettement s'opposer avec sa franchise et son absence de tact, et cette opposition donne du relief à ce personnage. C'est ainsi qu'en creusant un peu, on découvre de nombreuses contradictions chez cette princesse et ça fait d'elle un personnage un peu plus intéressant. En râlant et en critiquant la qualité de l'accueil reçu alors qu'elle était en détresse et qu'elle est venue demander de l'aide, cette princesse devient un personnage anticonformiste et s'inscrit nettement en opposition avec les conventions et la bienséance propre à ce milieu social. Elle dit ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Et figurez-vous que c'est son honnêteté qui va séduire le prince. Souvenez-vous, au début du conte, le prince parcourt le monde à la recherche d'une vraie princesse à épouser, mais, comme l'écrit Andersen, toujours quelque chose en elle lui paraissait suspect. En étant transparente sur ce qu'elle pense et ressent, la princesse dévoile l'un des traits de sa personnalité, c'est-à-dire l'honnêteté. Sans le savoir, elle possède la qualité la plus importante aux yeux du prince. Et le prince, au fait, si on en disait deux mots, lui aussi, il va à l'encontre du stéréotype du prince. Ici, pas de cheval blanc, pas de dragon à combattre, une seule chose à faire, trouver une véritable princesse à épouser. Ce qu'il n'arrive pas à faire. Le conte s'ouvre donc sur ce voyage qui est un échec. Suite à cela, il tombe dans une passivité déconcertante, car il n'est pas le sauveur de cette histoire. Ce n'est pas lui qui ouvre la porte du château à la princesse qui est dehors, sous l'orage. Non, c'est son père, le roi. Ce n'est pas lui qui a l'idée de tester la jeune fille, qui se dit être une véritable princesse. Non, ce n'est pas lui, c'est sa mère, la reine. Ce n'est pas lui qui met en place le test du petit pois. C'est sa mère qui s'occupe de défaire le lit pour mettre un petit pois sous les 20 matelas et les 20 édredons. Donc en fait, le prince dans cette histoire, c'est un adolescent. Il fait un voyage inutile, il râle et il laisse ses parents tout faire à sa place. Mais tout de même, pour sa défense, il faut bien avouer que, si ça se trouve, c'est un chouette type. Car la seule qualité qui lui paraît absolument indispensable pour épouser une femme, c'est... Eh ben, c'est la sincérité. Et non pas la dot, les origines nobles ou la beauté de la jeune fille, comme on pourrait l'attendre, venant d'un prince. La princesse au petit pois est, finalement, aimée pour ce qu'elle est vraiment, dans son honnêteté, sa franchise et son courage de braver la tempête. Alors, que faut-il retenir de ce conte surprenant ? Eh bien, peut-être tout d'abord qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Les princes sont parfois des vieux adolescents, mais ils n'en sont pas moins des chouettes types. Et les princesses ne sont, de toute évidence, peut-être pas celles qu'on croit. Il y a donc dans ce conte une forme de modernisme. Non, sincèrement, on ne pourra pas ôter ça à... Andersen. Déjà, ce conte, par sa courte durée, est assez singulier. Et puis, pour une fois, le merveilleux s'absente du conte pour laisser place à l'absurde. Il laisse la place au sentiment. Et il joue, et Andersen joue, avec la figure de l'orage. Et il me semble que cette figure de l'orage va participer à s'émanciper des conventions. C'est par la figure de l'orage qu'avec ce conte, Andersen va justement amener une forme de profondeur et amener peut-être déjà, un peu en avance, une forme de renouveau. Pour terminer cette émission, je voulais vous lire une réécriture de ce conte. J'étais persuadée d'en trouver une. Les contes classiques ont été tellement réécrits, adaptés, mis au goût du jour, mais je n'ai pas trouvé une seule réécriture de La Princesse au Petit Pois. À croire que personne ne sait quoi faire de ce conte, ou alors que personne n'y trouve un intérêt. Enfin, c'est quand même pas anodin. Alors, pour terminer cette émission, je suis allée chercher du côté des princesses un peu originales. Et c'est dans l'album jeunesse intitulé « Princesses oubliées ou inconnues », écrit par Philippe Le Chermeyer et illustré par Rebecca D'Autremer, publié en 2004 chez Gauthier Landureau, que j'ai trouvé une poignée de princesses un peu spéciales. Jetons un coup d'œil à la princesse Anguille de Lille. Il est très difficile d'apercevoir Anguille de Lille. Elle ne passe dans nos contrées que le 1er avril. Elle nage avec style dans les profondeurs des fleuves, elle glisse dans l'eau glacée des rivières. Avec patience, on peut distinguer entre les galets sa peau blanche, légèrement bleutée, presque argentée. À contre-courant, elle remonte les torrents. Cela n'arrive qu'une fois par an, quand elle rejoint son prince charmant, le baron Triton. Et je vous propose de terminer cette émission avec une autre princesse un peu spéciale, la princesse de Fatrasie. Bavarde comme une pie, difficile à suivre, parle de tout et de n'importe quoi, beaucoup de blabla, de tralala. Sa conversation sans queue ni tête est une vraie punition. Elle vous coupe la parole, passe du coq à l'âne, change de discussion sans aucune raison. Commence par la fin, confond tout, croit tout savoir, se trompe de nom et se mélange les pinceaux. En plus, elle prononce plein de gros mots. Tenir une conversation avec elle est épuisant. Placer un mot est une performance qui demande de l'expérience et beaucoup d'endurance. Elle a fait fuir tous ses prétendants, du plus timide au plus intrépide. Même ses parents l'évitent car ils veulent ménager leur tympan. Pénible en temps de paix, très appréciée pendant les conflits. Très utile pour pousser les chevaliers à charger quand ils manquent de courage. Les ennemis la fuient comme la peste. Ceux qui ont de grandes oreilles la détestent. Je vous dis à dans 2 semaines pour une émission sur le thème de la vérité. C'était l'émission Compte-Gouttes. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission sur Radio Campus Grenoble 90.8.